France Inter.
Aujourd'hui, diplomatie climatique 10 ans après l'accord de Paris, raconté par
Laurence Dubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Le 12 décembre 2015 à Paris, le monde retient son souffle. Dans la grande salle du Bourget, un marteau s'abat, une ovation éclate et avec elle l'espoir d'un basculement historique. Pour la première fois, 195 pays s'accordent sur un objectif commun, contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés. Et si possible, à 1,5 degré. Ce soir-là, l'accord de Paris devient le symbole d'une prise de conscience planétaire. 10 ans plus tard, le décor a changé. Le ton des promesses a laissé place à celui des comptes. Les conférences climat se sont succédées. Les textes se sont épaissis. Mais pendant ce temps-là, la courbe des émissions a continué de grimper. La température moyenne mondiale a franchi des seuils jugés autrefois inaccessibles. Et les catastrophes climatiques sont devenues le bruit de fond de l'actualité. L'accord qui devait changer la trajectoire du monde se retrouve confronté à une réalité brutale, celle d'un écart grandissant entre les engagements affichés et ce que la planète peut encore supporter. La COP de Belém au Brésil qui a marqué cet anniversaire à la fin de l'année n'a pas dissipé ce malaise, elle a plutôt confirmé ce que beaucoup pressentaient. Le cadre international existe, il est même plus robuste qu'il ne l'a jamais été, mais l'action reste largement insuffisante. Le temps politique continue de se heurter au temps physique du climat, implacable et indifférent aux déclarations finales. 10 ans après donc le coup de marteau du Bourget, la question n'est plus de savoir si l'accord était suffisant. La question est désormais de savoir si nous sommes capables collectivement de faire enfin coïncider nos actes avec l'urgence que nous proclamons depuis une décennie. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Samedi. 195 pays ont dit oui à un accord historique sur le climat. Soulagement et émotion envahissent une assemblée galvanisée. Cette ovation met un terme à 13 jours de négociations et quelques nuits blanches.
Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant.
La voix de Laurent Fabius, donc le 15 décembre 2015. Laurence Tubéna, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez à ses côtés, on va en parler abondamment avec vous cet après-midi. Vous qui publiez avec Emmanuel Guérin « Le climat est un sport de combat », c'est aux éditions Albin Michel, un livre dans lequel vous racontez de l'intérieur les grandes négociations climatiques de Copenhague à Paris. Vous avez été l'une des chevilles ouvrières de la COP21 en 2015. Vous étiez donc à la droite de Laurent Fabius au moment de cette déclaration. Quel souvenir d'ailleurs vous en gardez quand vous le réécoutez? Là, comme ça.
C'est toujours une belle émotion parce que, au fond, tout le monde prédisait un échec, encore une fois, après celui retentissant de Copenhague en 2009, et que finalement, on est arrivé à quelque chose qui n'existait pas avant, c'est-à-dire un accord qui implique tout le monde, tous les pays, même les moins avancés, et puis un espoir considérable. Et d'ailleurs, cette émotion de joie où on voyait des ministres, des ambassadeurs vraiment rompus à l'exercice des diplomaties internationales, chanter et danser. Donc c'était quelque chose qui était évidemment historiquement incroyable. Après, évidemment, 10 ans après, il faut regarder ce qu'on a obtenu.
C'est ça. Est-ce qu'on a encore envie de danser, de chanter, franchement?
Alors danser, chanter, sûrement pas. En revanche, reconnaître quand même, parce qu'il ne faut jamais, jamais penser que les choses sont simples. Je dis souvent, si on avait réussi à faire cet accord de Paris 10 ans, ou 20 ans évidemment avant, on verrait aujourd'hui les émissions mondiales certainement commencer à descendre. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé entre les 10 années précédant l'accord de Paris et les 10 années qui ont suivi. Les émissions mondiales, elles ont augmenté 18% avant l'accord de Paris, pendant les 10 précédentes années. Cette progression qui est de toute façon bien trop grande, c'était seulement 1,8%, et l'on voit probablement que les émissions mondiales, elles sont aujourd'hui un plateau, et on espère, si on a de bonnes raisons de penser que la Chine va les réduire, aller vers une réduction de ses émissions. Ça, c'est historique parce qu'on n'y était jamais arrivé. Oui. En même temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les lois de la politique ignorent les lois physiques, et surtout les lois physiques ignorent la politique. Et donc, on est trop tard. Donc, à la fois, l'accord, il a tracé une ligne dans le sable. Les choses ne sont pas comme avant. Il y a eu des transformations partout dans le monde. Mais c'est très lent de changer une économie mondiale fondée sur les fossiles depuis presque 2 siècles.
Ouais.
Plus de 2 siècles, ben ça ne se fait pas en 10 ans.
On est trop tard et c'est foutu ? Ou on est trop tard, il reste des choses à faire ?
Alors, c'est jamais foutu, d'abord parce que, comme le disent tous les scientifiques du climat, chaque fraction de degré compte. Et c'est pour ça que c'était bien qu'on passe d'un futur à 4 degrés à un futur aujourd'hui en dessous de 3, peut-être autour de 2,7, peut-être même un peu mieux.
Ce qui est déjà énorme, hein, sur les conséquences que ça veut dire hein, sur la planète.
Absolument
hein.
Considérable. C'est pour ça que le 1,5 degré ne doit pas être abandonné. Oui, bien sûr, on
Mais va... C'est abandonné, enfin, on sait bien qu'1,5 degré, c'est fini maintenant.
C'est la perspective que je comptais. Oui, bien sûr, on va dépasser 1,5 degré. La question, c'est de le garder comme dans le viseur, notamment pour la stabilisation des températures sur le long terme. Donc, on va dépasser, il faut y revenir, et ça impose des choses bien plus difficiles que auxquelles on s'attendait. Mais il ne faut pas perdre ça, parce qu'effectivement, 2,5 degrés ou même 2 degrés, c'est encore beaucoup trop. Et on le voit déjà aujourd'hui, puisque les catastrophes, elles sont là, alors qu'on est à ce 1,5 degré, un peu moins aujourd'hui en moyenne.
Ouais, et derrière ces demi-degrés, c'est toute la question de l'habilité de notre planète qui est en jeu. Hein. C'est toujours ça qu'il faut avoir derrière la tête. Hein. C'est pas juste une lubie d'écolo. Hein.
Absolument.
C'est des conséquences très concrètes sur notre façon de vivre, de respirer, de pouvoir accéder à de l'eau potable. Tout ça, c'est concret. Hein.
En plus, il se trouve, c'est malheureux, mais c'est la réalité de la science physique. Depuis Copenhague, on avait l'idée que avec ce qu'on, dans notre jargon, on donne un peu le seuil qu'on veut pas franchir, 550 particules par million, c'est la manière dont on mesure la concentration des émissions dans l'atmosphère, ça paraissait être vivable. Aujourd'hui, on voit que c'est bien trop et qu'il faut redescendre bien en dessous, au-dessus de 420, là où on est quasiment aujourd'hui. Donc, le problème, c'est qu'encore une fois, le climat, le changement climatique s'est plutôt accéléré. Il y a des effets d'entraînement qui se passent, qu'on voit maintenant, qu'on observe et qu'on n'anticipait pas, comme la fonte des deux calottes glaciaires, beaucoup d'éléments qui n'étaient pas dans la science de 2009 et qui sont aujourd'hui dans la science de 2025. Et donc, on court derrière. Et c'est ça, et c'est tout à fait important de penser que chaque fraction de degré compte.
Et puis le monde a beaucoup changé aussi depuis 2015, on en reparlera dans un instant, avec l'attitude des États-Unis qui s'est renforcée aussi dans son négationnisme climatique quand même.
Absolument.
Et ça c'est très très mauvais aussi pour le climat aujourd'hui.
Ah, c'est pas une bonne nouvelle. La première décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris en 2017 avait eu finalement relativement peu de conséquences. Les émissions américaines d'ailleurs avaient continué à baisser malgré ce premier mandat. Mais le deuxième est complètement différent, comme on le voit tous les jours sur tous les sujets. Et il y a maintenant la personnalisation, si on peut dire, d'une guerre entre l'économie du pétrole et l'économie décarbonée. Ce qui n'était pas le cas en 2017, il y avait les évolutions technologiques, mais des idées sur comment ça allait se dérouler, cette descente du besoin de fossiles.
Le mot est fort, hein, vous parlez de guerre.
Je parle de guerre, oui, j'ai beaucoup hésité avant de parler de ça, parce qu'il ne faut jamais caricaturer. Mais là, c'est dans la stratégie nationale de sécurité américaine. Qui dit, et le mot guerre hein, a été employé par différents membres de l'administration pour dire on fait la guerre contre les énergies renouvelables, tout ça est vraiment dangereux, il faut revenir au pétrole et au gaz. C'est une stratégie de sécurité, et donc c'est pour ça que les deux thèmes, et d'ailleurs peuvent se discuter de deux façons. On peut penser la sécurité, au contraire, dans la sortie du pétrole et du gaz, puisqu'on est très dépendant des pays qui en ont, et de la géopolitique qui s'y adjoint. Ou on peut penser que le bien, c'est que ceux qui ont du pétrole et du gaz continuent à régner dans les affaires politiques de la planète.
Cette guerre, elle se manifeste comment, alors concrètement, aujourd'hui, par exemple? Elle se fait sentir au sein d'une institution comme le GIEC, ou pas?
Elle se fait sentir partout, dans les conventions, dans les conférences de parties sur le climat. On a beaucoup aujourd'hui d'interventions qui sont liées au secteur pétrolier privé ou public. Depuis, de plus en plus, notamment depuis la COP21 à Glasgow et depuis, encore une fois, l'invasion de l'Ukraine. On le voit à travers les pressions à l'intérieur du GIEC, où un certain nombre de pays commencent à contester les résultats, y compris à Belém. On l'a vu de nouveau, là, l'idée qu'on contestait la qualité des travaux du GIEC. Et on va le voir aujourd'hui, puisque les États-Unis ont décidé de se
sortir. Sort du GIEC, ça c'est une annonce d'hier de Donald Trump, d'autres organisations importantes.
Beaucoup, j'ai pas suivi toute la liste, je vois qu'il y a évidemment la Convention climat, non seulement l'accord de Paris, mais la Convention cadre, effectivement le GIEC, et ça veut dire, on va voir les conséquences évidemment petit à petit.
Donc ça veut dire quoi? Que d'abord il y aura moins d'argent?
Il y aura moins d'argent, ça c'est la première chose.
Donc c'est la première des façons de faire la guerre aussi, hein.
C'est absolument la première, sachant que, étant donné leur poids économique, la première économie mondiale, les États-Unis étaient le premier contributeur, puisqu'on répartit ça en fonction des produits intérieurs bruts de chacun. Deuxième chose, ça peut être les menaces, comme on l'a vu sur certaines choses. On l'a vu dans les négociations sur les accords maritimes, puisqu'on devait installer une taxe carbone sur le transport maritime. Et les États-Unis s'y sont non seulement violemment opposés, ce qu'on peut comprendre, mais ont menacé des négociateurs de représailles personnelles s'y soutenaient. Donc on est dans quelque chose qui est très différent en nature. Et c'est pour ça que je peux employer le terme de guerre, parce que c'est au fond cette administration qui l'utilise.
Ouais.
La sécurité, c'est le pétrole et le gaz, et c'est la manière dont vous soutenez nos intérêts. Et quand on regarde la liste des institutions où les États-Unis veulent continuer à contribuer, et celles dont ils veulent sortir, on voit très bien clairement leurs intérêts. Ils veulent tuer tout ce qui est effectivement le climat, l'environnement, tout ce qui les gêne, tout ce qui, dans les idéologues qui les soutiennent, comme Peter Thiel, c'est l'argument contre le progrès, c'est cette fantaisie européenne de vouloir préférer l'environnement à une croissance sans limite. C'est tout ça contre lequel ils sont en guerre. C'est une guerre à la fois économique, évidemment, mais c'est aussi une guerre culturelle. C'est se dire le pétrole, le gaz, le développement économique comme avant, l'exploitation des ressources naturelles sans frein, y compris, même si ce n'est pas à vous, dans votre territoire. C'est ça la manière de faire, et pas celle d'essayer de vivre en équilibre avec nos écosystèmes, qui paraît, de leur point de vue, rétrograde et un ennemi, finalement.
On en reparlera tout à l'heure avec vous, Laurence Toubiana. Encore un mot sur les 10 ans de l'accord de Paris et la déclaration de Laurent Fabius, donc le 12 décembre 2015, lorsqu'il disait, on l'entendait tout à l'heure, que cet accord sur le climat était juridiquement contraignant. L'est-il vraiment, en réalité?
Alors, on a souvent...
Ça a été beaucoup discuté, ça. Hein.
Oui, beaucoup. On a souvent une confusion dans ce qu'on appelle juridiquement contraignant dans le droit international. Comme vous le savez, on n'a pas de gouvernement mondial, d'une certaine manière, Dieu merci, aujourd'hui, je ne vois pas très bien qui l'exercerait. Mais il y a des aspects qui sont liés à la souveraineté nationale des États. C'est évidemment une condition pour avoir cet accord de Paris, comme dans n'importe quel accord international. Et puis, il y a ce qui est juridiquement contraignant. En pratique, il n'y a pas de droit international qui permet d'opposer, on le voit même, y compris sur le droit de la guerre. On le voit sur tout. À partir d'un moment où un pays décide de ne pas l'appliquer, il ne l'applique pas, et il n'y a pas grand-chose qu'on peut avoir, évidemment, peut se plaindre auprès de la Cour internationale de justice, qui vient d'ouvrir d'ailleurs une fenêtre à une capacité d'intervenir sur le climat, ce qui est complètement nouveau.
Et là, c'est la même chose pour l'accord de Paris. Si un État qui a signé l'accord décide de ne pas le respecter, il ne sera pas poursuivi pour autant.
Voilà, exactement. Alors, en revanche, ce qui est juridiquement contraignant, tant qu'on reste dans l'accord de Paris, évidemment, c'est les obligations. On a des obligations tous les 5 ans de présenter une contribution nationale. On a une obligation d'être transparent, de communiquer toutes les données, d'être ouvert aux commentaires des uns et des autres. On doit faire toujours mieux, ce que Trump avait très bien compris tout de suite en disant « il ne faut pas être là-dedans parce que sinon ça oblige à faire toujours mieux », ce qui est vrai. Et puis évidemment, c'est aussi une référence pour le cadre juridique national. Ce qu'on oublie toujours...
Oui, mais il n'y a pas de sanctions pour autant.
C'est-à-dire les sanctions...
Il n'y a pas de sanctions financières. Hein.
Elles sont les sanctions... Encore une fois, il n'y a pas d'accord international. Même Montréal n'a pas utilisé de sanctions. Enfin, l'accord sur les questions de gaz qui ont détruit la couche, enfin qui ont abîmé la couche d'ozone. Ce qu'il y a de la manière dont ça se reflète, c'est un peu comme le système européen. Ce qui est juridiquement contraignant nationalement, et ce qu'on a demandé aux pays à travers l'accord de Paris, c'est d'avoir un droit national. Ce que maintenant tous les pays ont... Alors, évidemment, il y a des pays qui ont refusé, comme il y a une... les lois climat ne sont jamais passées devant le Congrès et le Sénat américain, ça c'est vrai, malgré toutes les tentatives. La plupart des autres pays ont une loi climat, et c'est pour cela que les cours de justice nationale, que ça soit la cour allemande, plusieurs cours, il y a aujourd'hui 1500 procès aujourd'hui sur le climat dans le monde, mais qui s'adressent à leur cour nationale. La Cour internationale de justice qui a été mobilisée par les étudiants de Vanuatu est vraiment une exception, c'est la première fois qu'on l'a fait. Donc c'est la question vraiment de l'application, c'est le droit national. Et ça a marché en France, ça a marché en Allemagne, mais ça a marché aussi dans d'autres pays comme le Brésil.
Le climat est un sport de combat, c'est le titre de cet ouvrage que vous publiez chez Albin Michel. Laurence Tubiana, et vous êtes l'invité de La Terre au Carré. Vous répondrez également aux messages des auditrices et auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Afin de respecter mon engagement solennel de protéger les États-Unis et son peuple, les États-Unis vont se retirer des accords de Paris sur le climat. Mais nous allons reprendre des négociations pour soit reprendre les accords de Paris, soit des accords entièrement nouveaux.
Laurence Tubiana, c'était la voix de Donald Trump en 2017. Une voix qui n'est pas tout à fait la même d'ailleurs. Hein. On voit l'évolution vocale aussi du président américain avec votre ouvrage qui s'appelle « Le climat est un sport de combat » chez Albin Michel. Le retrait donc de l'accord de Paris, on en parlait tout à l'heure des États-Unis. Est-ce que cet accord aurait pu ne pas résister justement au départ des Américains ou pas ?
Il aurait pu, bien sûr. Peut-être pas. Je réfléchis parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme pays qui ont été tentés en 2017 de sortir de l'accord de Paris ? Bon, le Brésil, d'abord, sous Bolsonaro, ouais. Et qui a été convaincu par les intérêts économiques brésiliens de ne pas le faire. Pour des raisons d'acceptabilité, tout simplement pour des raisons commerciales d'ailleurs, très largement, plus évidemment une mobilisation intérieure, qui était sous pression sous le régime de Bolsonaro. Il y a eu des pays qui ont été tentés, comme l'Australie par exemple, qui avait un gouvernement conservateur à l'époque, qui était très anti-climat.
Avec
et tous finalement ont renoncé parce que, pour toutes sortes de raisons, l'appréciation de l'opinion publique, le fait que ça paraissait être quand même un cadre raisonnable pour pouvoir continuer à commercer. Ouais. Et au fond, sans que ça ait été visualisé ou mis en avant, comme ça l'a été à la dernière conférence des partis à Belém, l'année dernière, en 2025, cette idée que tout ça allait... Le climat, ça touche tout. Ça touche l'économie, ça touche le commerce, ça touche la finance. Et que c'est dangereux de sortir d'un accord où quand même il y avait un certain nombre de règles. C'est ça qui a prévalu en 2017. C'est ça qui prévaut encore aujourd'hui, malgré au fond la tentation de l'Argentine, par exemple, de sortir de l'accord de Paris. Mais si l'Argentine sort de l'accord de Paris, elle sort de l'accord de Mercosur en même temps. Donc on voit que les choses se lient de plus en plus et qu'on voit des mondes qui sont maintenant peut-être en train de s'organiser sous des principes différents.
Vous parlez de tissage d'ailleurs, c'est un mot que vous employez dans votre ouvrage pour dire à quel point justement toutes les choses sont interconnectées aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Bon, parce que le climat touche toute l'activité économique, mais aussi l'opinion, la société. Je suis inquiète évidemment des évolutions géopolitiques, on ne peut pas être optimiste aujourd'hui, mais je vois aussi dans toutes les sociétés du monde la préoccupation depuis 10 ans sur l'accord de Paris sur le climat, sur la façon d'y répondre et sur une distance croissante entre des politiques qui écoutent évidemment les intérêts constitués, c'est plus facile, et une population, des sociétés qui trouvent que c'est insupportable de continuer à subir les impacts du changement climatique. Donc il y a toutes ces évolutions politiques, on voit que le climat c'est plein de choses. Et au fond, j'utilise la formule de ce philosophe des années 30, là, John Dewey, américain, qui dit au fond, il y a un public quand des gens commencent à se concerner par un problème qui n'est pas le leur personnellement, mais qui est un peu plus large, et qui se disent, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on intervienne dans la sphère sociale. Et il y a aujourd'hui un ou même des publics pour le climat.
Est-ce que vous avez le profil parfait pour être interdite aujourd'hui de territoire américain, Laurence Tubiana ?
Je ne voudrais pas me prononcer sur ce sujet aujourd'hui, parce que j'espère que je vais pouvoir y aller bientôt.
Mais vous êtes quand même, vous pourriez être dans le viseur, clairement, non ?
Oui, je suis une avocate de l'action climatique. Je respecte évidemment énormément cette société américaine. J'y ai travaillé travaillé longtemps, j'y continue à y travailler quand je peux. Je trouve dommage que les meilleurs scientifiques américains, l'acquis de la science américaine a été absolument incontournable pour qu'on comprenne ce qui est en train de nous arriver sur l'environnement général et le climat en particulier. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est ce que aussi j'admire aux États-Unis.
L'intervention américaine au Venezuela pour s'emparer du pétrole pourrait avoir quelles conséquences justement pour le climat et la planète si les États-Unis réussissent réellement à relancer l'industrie pétrolière, ce qui n'est pas fait encore, hein.
Alors, je ne sais pas comment on peut interpréter les conséquences économiques. Politiques, sûrement, ce n'est pas vraiment mon champ, mais enfin, y a tout ce qui a été exprimé sur cette façon de faire. Mais je suis interrogée par le fait que malgré tout ce tourbillon de problèmes autour des réserves vénézuéliennes, dont on sait qu'elles sont les plus importantes du monde, plus importantes que celles de l'Arabie Saoudite, en même temps une industrie qui a périclité, je vois que le marché du pétrole ne réagit quasiment pas.
Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Alors, parce que les énergies fossiles sont déjà sur le déclin?
Alors, c'est ça la bataille d'aujourd'hui. Et je comprends l'intensité de cette bataille, qui est une bataille informationnelle et politique au sens le plus étroit du terme, autant qu'économique. C'est que, et j'en veux pour preuve, ce qu'on n'a probablement pas fait particulièrement attention, la bataille sur la publication du rapport sur l'énergie, le rapport annuel de l'énergie de l'Agence internationale pour l'énergie. Jusque-là, l'agence proposait des scénarios qui permettaient en tout cas de voir comment on pouvait respecter le 1,5°C, qu'est-ce que ça supposait, et avait des hypothèses d'ailleurs, non pas fondées sur ce 1,5°C, mais sur l'évolution de la demande de pétrole et de gaz. Et c'est vrai que l'agence pense que d'ici 2030, à partir de 2030 en tout cas, on va voir un pic de demande et plutôt une décroissance de cette demande. Et pour ça, c'était insupportable.
2030, c'est dans 4 ans. Hein.
Voilà, c'est
faut juste le rappeler, parce que c'est vraiment demain.
Tout de suite. Ouais. Et c'est ça que les intérêts différents du pétrole, pour comprendre ça aussi du point de vue de leur intérêt, ont voulu absolument faire taire ce message pour dire non, on a besoin du pétrole pour toujours. Et j'ai vu d'ailleurs depuis 2021 de dire le pétrole et le gaz font partie de la solution. On a vu des compagnies pétrolières comme Total ou Shell dire on va être neutre en carbone à telle date. Et puis passer de ça à dire on n'est pas seulement partie de la solution, on est la solution. Parce qu'il faut qu'ils occupent ce terrain, parce que c'est devenu un terrain extrêmement dangereux. Parce qu'au fond, tout marche dans l'économie mondiale sur les anticipations. C'est ce sur quoi d'ailleurs l'accord de Paris est fondé, puisqu'on n'a pas de... Ouais. On va pas investir ou envahir un pays pour ce qui ne... Enfin, manifestement, on peut l'envahir parce qu'il y a du pétrole, mais on ne l'envahit pas parce qu'il ne respecte pas ses obligations sur le climat. Et on l'a vu vraiment, c'est une guerre sur qu'est-ce que c'est le futur, parce que c'est où sont les investissements. Et je pense que si on est dans un moment aussi fort, à la fois parce qu'on a vu la Russie s'indigner contre l'idée européenne de se séparer du pétrole et du gaz russe, comme on le voit aujourd'hui à front renversé d'une certaine façon des États-Unis dire vous ne pouvez pas vous passer du gaz liquéfié américain, c'est vrai que le continent européen importe 80% du gaz liquide américain. Il faut absolument rendre crédibles ces menaces. Et du coup...
Est-ce qu'elle n'est pas là, finalement, l'erreur stratégique de Donald Trump, c'est de rester dans ce déni à la fois climatique et de la réalité aussi, de l'évolution des pratiques autour des énergies fossiles?
Oui, je pense que quand on voit un État pétrolier comme le Texas, être le premier exportateur d'énergie renouvelable aux États-Unis et continuer à investir, malgré les obstacles qu'il rencontre aujourd'hui, on peut se dire que c'est un mauvais calcul. Pourquoi ne pas être la première puissance mondiale, non seulement dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans cette révolution technologique? Je crois qu'il y a un calcul de court terme qui est lié aussi à qui a financé sa campagne. C'est normal, c'est les intérêts qui l'ont soutenu depuis toujours. Mais c'est aussi une vision du monde. Et vous savez, il y a beaucoup de pays qui en sont encore victimes. Après tout, la Russie, elle pourrait être tout à fait indépendante de son pétrole et de son gaz et se développer parce qu'elle a énormément de potentiel d'énergie renouvelable. Et ça, c'est pas... c'est renouvelable, c'est pas... Il n'y a pas de fin.
Ouais. C'est pérenne. Ouais.
C'est pérenne. Et je trouve qu'il y a cette vision du monde qui est différente et qui laisse du coup à la Chine en particulier un espace considérable. Je vois par exemple, même y compris, et c'était très intéressant à Belém, l'évolution des positions dans le continent africain. Il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, juste après la crise du Covid et un peu l'amertume qui en a été générée en Afrique parce que les vaccins, notamment européens, sont arrivés très tard, les pays africains se dressaient en disant « on a besoin du gaz, vous n'allez pas nous empêcher d'exploiter notre gaz et notre pétrole ». Parfaitement compréhensible par ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai vu à Belém se séparer deux Afriques. Une Afrique qui encore veut continuer parce qu'elle a des ressources, et l'autre qui dit « on n'a pas de ressources, donc on n'a aucun intérêt à ça ». Et j'ai vu des pays comme le Kenya, comme l'Éthiopie, comme le Ghana dire « c'est pas notre combat, notre combat c'est plutôt… » Et on le voit dans les investissements aujourd'hui, les investissements énergétiques qui sont en plein boom en Afrique, dans le continent qui aura le plus de consommateurs bientôt, c'est les énergies renouvelables. Donc on a une bataille, l'électricité contre pétrole, on n'aurait pas pu imaginer il y a 100 ans.
Vous parliez de l'intelligence artificielle, Laurence Soubena. Est-ce que c'est quelque chose aussi sur le front du climat qui peut vous inquiéter aujourd'hui fortement, vu l'essor, la rapidité et la façon dont ça puise, dont ça épuise aussi les ressources naturelles?
Alors, on a vu effectivement arriver ça probablement trop tard, enfin sans anticiper suffisamment. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce aujourd'hui. Alors, on le voit d'ailleurs, puisque beaucoup d'élections locales américaines se font sur ce problème de l'installation des banques, des bases de données, des data centers. Pourquoi ? Parce que ça pompe l'énergie.
Et l'eau.
Et l'eau.
Ça puise
et que
d'eau.
Ça fait monter les prix de l'électricité. Et donc, il y a eu une bataille en Virginie, il y en a d'autres ailleurs. Et ça contredit d'ailleurs une partie des intérêts du Parti républicain qui soutient l'installation à toute force de ces data centers. Et il y a une bataille qui comprend aussi ce qui se passait sur le territoire chinois. La demande d'énergie, n'importe laquelle, mais rapide, de ce secteur, probablement qui ne pense pas une minute pour l'instant à son efficacité énergétique, mais surtout à aller plus vite, donc plus grand, avec de plus grands modèles et de plus grandes capacités de gestion de données, fait qu'on a une contradiction complète entre les intérêts des gens qui habitent à côté de ces data centers et ceux-là.
Et on voit les géants de l'IA qui commencent à investir dans le nucléaire, par exemple, qui s'y intéressent beaucoup.
Avec des idées un peu très optimistes, qui peuvent avoir des centrales à fusion à côté de leur data center. Bon, il faut les laisser rêver pour l'instant.
Mais en attendant,
j'ai entendu la maire de Phoenix, par exemple, une maire très courageuse d'un des États d'États-Unis, dire ben, « j'ai plus pu respecter mes engagements sur l'accord de Paris », alors qu'elle est vraiment convaincue parce qu'elle a été prise en otage par les data centers qui voulaient de l'énergie et donc du charbon.
Laurence Tebiena, le climat est un sport de combat. Vous êtes notre invitée.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je trouve que c'est extrêmement frustrant de voir comment l'endroit même où l'humanité devrait se pencher sur comment terminer notre accrochage aux combustibles fossiles est en bonne partie colonisé par le secteur fossile lui-même. On pourrait déjà constater qu'il y en a moins qu'il y a 2 ans. Au COP28, ils étaient 2500. Maintenant, on est à 1600. Mais je trouve quand même extrêmement problématique que le secteur fossile a un tel pouvoir. Et ils sont là, en plus, avec des badges nationaux. Donc, ils entrent tout en faisant partie des délégations diplomatiques nationales comme la française.
La voix de l'historien David Van Reybroek, c'était à votre place, Laurence Toubiana, le 18 novembre dernier dans La Terre au Carré. Vous qui êtes notre invité avec ce livre, Le climat est un sport de combat chez Albin Michel. Justement, si le climat est un sport de combat, qui sont aujourd'hui les adversaires principaux? Ce sont les lobbyistes du pétrole?
Enfin, ils sont là depuis longtemps. La Heritage Foundation, enfin tout le mouvement qui a construit le doute sur le climat est là depuis effectivement plus de 30 ans. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est peut-être le sentiment pour eux de l'urgence. Ils ont négligé les conférences des partis pendant longtemps, pensant que ça ne servirait pas à grand-chose. Ils sont quand même inquiets de voir que, justement, quand même, la demande de pétrole et de gaz, elle n'a pas explosé. Il y a eu des bénéfices formidables au moment de l'invasion de l'Ukraine, parce que les prix ont flambé. Mais donc, c'était un espèce de boom, un surprofit, mais qui, au fond, repartit ensuite assez rapidement. Et qu'on a une demande, il y a aussi une croissance mondiale qui est faible, mais que quand même l'intensité carbone de l'économie mondiale, elle a tendance à... Alors, l'économie mondiale, elle consomme toujours plus hein, d'énergie fossile, mais beaucoup moins qu'avant, parce que l'intensité de chaque point de PIB mondial en fossile, il se réduit. Bon, il se réduit évidemment dans la deuxième économie mondiale chinoise, même si ça ne va pas aussi vite que les dirigeants l'avaient annoncé. Donc on a une économie mondiale qui doucement se décarbone, bien trop doucement. Et du coup, c'est un très mauvais signal, et il faut le combattre. Et c'est pour ça que
donc ce sont quand même des adversaires, ça reste aujourd'hui
absolument
des adversaires majeurs.
On aurait pu imaginer que les grands du pétrole et du gaz, le problème c'est en fait le problème de la rente, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à extraire cette ressource et elle a une valeur en elle-même, hein, c'est comme l'or. Faire des énergies renouvelables, c'est quand même de l'investissement dont il faut arriver à récupérer ensuite les bénéfices. C'est pas toujours évident à faire. Mais du coup, cette rente, elle rend toutes les autres activités moins intéressantes à court terme. Quand on est en Arabie Saoudite, ça coûte rien, hein, de quasiment rien, de sortir un litre de pétrole du sol. Et donc, c'est juste un bénéfice. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a d'autres éléments, on aurait pu imaginer que, et elles ont failli le faire. Des entreprises comme Shell, comme British Petroleum, comme Total, se sont dit on va faire du renouvelable aussi. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup, beaucoup moins rentable.
Ouais. Bah, on voit la part qui est investie, c'est rien du tout par rapport aux fossiles.
Ouais. Et là, plutôt diminué récemment.
Alors, qui sont les adversaires, vous, que vous analysez clairement, Laurence?
Je crois qu'il y a les pays qui vraiment défendent, parce que c'est leur économie, le secteur pétrolier, avec des nuances. Hein. Il y a le secteur lui-même, avec ses entreprises, ses lobbyistes. On l'a vu notamment dans la bataille européenne pour simplifier les règles, et notamment ce qu'on a appelé la procédure omnibus, hein, qui est une façon de simplifier les règles européennes. Et on a vu qui est-ce qui sait. Il y a un rapport qui a été publié très récemment pour montrer la campagne orchestrée depuis plusieurs années, puis depuis plus de 2 ans, pour démonter ces règles européennes qui obligeaient à quoi ? Aux entreprises de dire comment elles allaient décarboner pour être cohérentes avec les réglementations européennes. Et ça a été combattu par des lobbies où on retrouve au premier chef les grandes entreprises américaines du pétrole, notre entreprise française aussi, qui ont contribué à investir auprès des députés européens pour leur montrer qu'il fallait vraiment, et la Commission européenne, se débarrasser de ça. Donc, c'est une guerre au sens... Il y a tous les éléments pour fragiliser cette économie du climat qui a quand même fait beaucoup de progrès depuis 10 ans. Soit la bloquer, si on peut, soit éventuellement revenir en arrière. Ça paraît beaucoup plus difficile. Et c'est ça le gros enjeu. Donc, c'est beaucoup plus agressif qu'avant, parce que je crois qu'on est au moment de bascule. Quand je disais les émissions mondiales sont peut-être arrivées au plateau, ce qui est probable, elles vont commencer à descendre. C'est un jugement terrible pour le secteur pétrolier et le gazier, parce qu'ils ne savent pas encore comment on enlève ces émissions. Alors, ils disent qu'ils vont le faire, qu'ils vont stocker le carbone, mais ils n'y arrivent pas pour l'instant.
Alors, si c'est plus agressif qu'avant, il faut répondre aussi avec plus d'agressivité, non ?
Je crois qu'il faut répondre avec beaucoup de détermination. C'est ce qui me paraît aujourd'hui manquer du côté européen, parce que le côté chinois, c'est une autre question. Il y a d'abord cette grosse question de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on arrive à passer le message et les régulations qui disent cette intelligence artificielle, on la développe à certaines conditions. On le voit sur les contenus et sur l'usage. On devrait le voir aussi sur la consommation énergétique, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un secteur absorbe toute l'énergie. Si on laissait faire, en 2050, il consommerait autant d'électricité que toute la planète. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il y a cette première chose. Mais en Europe, en tout cas, qui est quand même le continent le plus avancé dans la décarbonation de l'économie, il ne faut pas avoir peur des États-Unis, tout simplement.
Enfin, les Chinois, ils se portent pas mal aussi, quand même, pour décarboner. Ils ont des résultats qu'on n'a pas, nous, en Europe.
Ils ont des résultats. Bon, il faut mettre les...
Sur les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas...
Écoutez, on a diminué les émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus que la Chine, sans comparaison. Et pour l'instant, on n'en est pas à réduire les émissions chinoises. Ils peuvent le faire d'ici 2035. Ils ont annoncé une baisse de 10 à 12%. Ils peuvent aller beaucoup plus loin. Ça dépend effectivement de leur politique sur l'intelligence artificielle et la consommation du charbon. Mais pour l'instant, l'Europe est le continent qui a fait le mieux. Mais il faut qu'on continue.
Ouais. Est-ce que, si on regarde sur le continent, évidemment, parce que si on prend pays par pays, on est moins fort que les Chinois. Est-ce que le capitalisme est un adversaire pour vous, Laurence Tubiana ? Vous n'employez le mot qu'une seule fois dans votre livre, c'est pour parler du capitalisme de copinage en parlant des États-Unis. Mais quand vous parlez d'un système économique fondé sur les énergies fossiles, la domination des logiques du court terme, le rôle structurant de la finance, la puissance des lobbies fossiles, c'est du capitalisme tout ça.
Oui, celui qu'on a vécu depuis 2 siècles.
Ouais.
Oui.
Pourquoi vous n'employez pas le mot alors ?
En partie parce que sinon il faut arriver à une déconstruction et du coup une reconstruction spécifique. Mmh. On aurait pu avoir un capitalisme, il y a d'ailleurs en germe un capitalisme qui n'est pas forcément plus vertueux que l'autre, hein, oui. Notamment du point de vue de la distribution des revenus, de l'intégration sociale, de la justice. On pourrait avoir un capitalisme vert. En quoi il serait meilleur sur certains aspects pour les écosystèmes, sans doute, si on valorisait la nature.
Face à du capitalisme.
Mais ça pourrait rester du capitalisme.
Donc ça veut dire qu'on va continuer l'extractivisme.
Voilà, on aurait les mêmes questions sur l'extractivisme, les questions de justice, de concentration des richesses. Mais là, on est en espèce de caricature. Parce que le capitalisme, il a eu plein de formes. Hein, et plein de... Il n'y en a pas un seul. Et il y a eu des moments, effectivement, on regarde depuis 1930, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu des avancées sociales considérables. Il y a eu la capacité d'avoir des médias libres, un syndicalisme fort. Enfin, il y a eu des équilibres qui, aujourd'hui, sont vraiment largement rompus. Donc, oui, il y a un autre livre à faire sur quelle est la nature du système dont on a besoin, certainement.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Avec une question d'Anton qui nous écrit de Toulouse, Laurence Tubiana, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'attaquer juridiquement les États-Unis pour mise en danger des terriens pour leurs actions irresponsables contre le climat ? Ils ne seraient pas les seuls à devoir être attaqués dans ces cas-là. Hein.
Non, ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres. Le problème est le fait qu'ils respecteraient leurs engagements. Regardez ce qui s'est passé pour Israël et Netanyahou, même Poutine, qui est inculpé hein, par la Cour de justice de crimes contre l'humanité. On n'a pas les moyens internationaux de faire respecter les décisions internationales. Mais ça serait bien. Je crois que c'est très bien de porter ça. Je trouve que la démarche des étudiants de Vanuatu est très importante. Pourquoi ? C'est que des juridictions nationales, elles peuvent se saisir de ces arguments. Donc, oui, il n'y aura pas d'impact effectif, mais il y aura aussi... Alors, les condamnations morales, ça peut jouer dans les deux sens. Hein. On peut avoir un réveil nationaliste encore plus important aux États-Unis, en dire on est attaqué. Mais il y a aussi des consciences aux États-Unis qui sont extrêmement militantes et réveillées. Et puis, il y a aussi tous ces scientifiques, bien sûr. Aujourd'hui, ils sont mis de côté, mais ils sont là. Donc, il ne faut pas penser les États-Unis comme un État. Il ne faut pas penser qu'un État, une nation, c'est une personne ou un agent. C'est plein d'agents. Et c'est ça sur lequel il faut parier. Donc oui, pourquoi pas réveiller là et montrer à tous ceux qui se battent pour le climat aux États-Unis, et Dieu sait s'il y en a, hein, y en a beaucoup qui ne sont pas seuls.
Gilles nous dit, sachant qu'aucune solution digne de ce nom ne seront appliquées pour freiner le dérèglement climatique, combien de temps reste-t-il avant que la Terre devienne vraiment inhabitable ?
Ça, je ne sais pas répondre à la question, puisque ça change tout le temps. Je ne suis pas une physicienne du climat. Ce que je suis, en revanche, comme tout le monde, très inquiète. Parce qu'en plus, on n'investit pas suffisamment dans l'adaptation à ce changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on construit ? Comment on le fait ? Comment on protège les plus vulnérables ? On est encore en retard. Je vois toutes les discussions sur, par exemple, la végétalisation de Paris, qui paraît être pas sérieuse pour certains, mais c'est vital dans une ville qui n'a pas de végétaux. Donc, il faut en tout cas se mobiliser sur l'adaptation.
Et c'est vital pour beaucoup de villes françaises, hein, qu'elles soient grandes ou petites ou moyennes. On va écouter un message vocal pour vous.
Bonjour la Terre au carré, bonjour Mme Tubiana. Je m'interroge pour savoir si un accord comme le Mercosur ne devrait pas être examiné par la Cour de justice européenne avant même d'être signé, et en tout cas avant de rentrer en application.
Merci Laurent pour ce message.
Alors, je ne peux pas répondre sur le plan juridique, ça je ne suis pas compétente pour ça. C'est intéressant de se demander quel peut être le jugement de la Cour de justice européenne sur la mise en conformité de cet accord de Mercosur avec les réglementations européennes. On voit qu'il y a un espèce de chemin qui est cherché dans cette négociation qui a duré depuis longtemps, hein, et qui dont le résultat est évidemment bien moins intéressant que les nouveaux accords commerciaux qui ont été conclus, notamment avec la Nouvelle-Zélande, entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande. Alors l'accord de Paris figure, le respect de l'accord de Paris figure hein, dans les clauses du Mercosur. Enfin, ça a été ajouté relativement récemment, il y a 3 ans, je crois. Ce serait intéressant. Je ne sais pas du tout si c'est une condition dans le droit européen, parce que je suis incompétente. Mais en revanche, c'est très intéressant qu'effectivement des juridictions européennes se penchent sur la cohérence entre nos accords commerciaux et la législation environnementale.
Merci beaucoup Laurence Toubiana d'être venu au micro de La Terre au Carré. Je renvoie sur votre ouvrage « Le climat, c'est un sport de combat ». Vous y parlez beaucoup de votre action au sein des différentes COP. C'est publié aux éditions Albin Michel. Merci d'être venu à ce micro. Merci à Lucie Sarfati qui a préparé ce dossier, Théo de Lobadère à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.